Éteins la télé, éteins la télé, vite éteins la télé. Ferme, éteins la télé, éteins la télé, vite éteins la télé.
Bonjour, bonjour, fidèles amis de Radio Galère et de Comaguerre. Heureux de vous retrouver. Toute l'équipe est là. Je salue Roselyne sous son casque. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Je salue Habib. Bonjour Habib.
Bonjour tout le monde.
Sous son casque et sous son bonnet. Voilà. Et on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, l'actualité du jour, c'est tout frais, mais ça mérite qu'on s'y arrête, ça a du sens. C'est-à-dire que le général Kirillov, qui était donc le général commandant les armes, responsable des armes bactériologiques chimiques dans l'état-major russe, a été assassiné ce matin. Il sortait de son domicile et il a été assassiné par un scooter qui a explosé juste à son passage et qui donc était télécommandé depuis une petite distance ou un peu plus loin, on ne sait pas. Ça reste à établir. Mais on rentre totalement dans la problématique de l'impérialisme tel qu'il est, c'est-à-dire il fonctionne à coup d'assassinat. C'est ça. La règle, c'est ce qu'on appelle là-bas aux États-Unis la kill list, la liste des gens à tuer, qui est déjà longue. On le rappelait à une autre occasion, les Lumumba, les aliens et tout, sont des gens qui étaient sur la liste, et à un moment donné, on met une croix sur la liste, et lui doit mourir. Bon, ben Kirillov était sur la liste, il ne le savait sans doute pas, c'est pour ça que ça a marché. Parce que, donc, il n'avait pas de protection. Pas du tout. C'est la première fois à Moscou qu'il y a un attentat de ce type-là sur un général de haut niveau, qui était connu, qui était populaire, qu'on voyait assez souvent à la télévision. Il savait de quoi il parlait, mais il avait été mis sur la liste. Alors, après, on se demande pourquoi il était sur cette liste et depuis quand ? Eh bien, c'est très simple, en fait. Mais ça, on ne vous l'expliquera pas. On va dire c'est mystérieux, on se pose des tas de questions. Alors, il n'y a pas de mystère du tout. Monsieur Kirillov s'intéressait beaucoup à l'Ukraine, et on sait que c'est normal quand on est un général de haut niveau dans l'armée russe en ce moment, et depuis quelque temps. Et il avait observé que depuis le Maïdan, donc depuis la prise du pouvoir à Kiev... Ah voilà, merci, je n'étais pas tout à fait en face du micro. Depuis la prise du pouvoir donc, des néo-nazis ukrainiens à Kiev, M. Kirillov, qui connaissait le terrain, s'était rendu compte qu'il s'installait de plus en plus de laboratoires biologiques sur le territoire de la République ukrainienne. Et ces laboratoires étaient en général financés ou dirigés même par des gens aidés par l'Ouest, disons, qui étaient accueillis par le régime, et se livraient à toute une série d'activités de recherche, de préparation, ben, dont on ne savait pas officiellement de quoi, mais ça pouvait très bien être, et l'hypothèse avait été émise, et je crois qu'il y avait même eu des études là-dessus, par exemple, faire en sorte qu'on contamine des oiseaux migrateurs, avec un virus, ces oiseaux migrateurs circulent sur le territoire russe, et là où ils font des nids, ils vont pouvoir donner lieu à une épidémie de quelque chose qui n'est pas connu, là où ils vont faire leur nid. Bon. Donc il était sur ce type de problématique, et effectivement c'était très très gênant pour l'adversaire impérial qu'il ait découvert, il avait découvert le poteau rouge, il avait dit c'est bien joli, c'est labo, mais en fait ces labos servent à préparer la guerre biologique, chimique et bactériologique. Et donc comme c'était son métier, ben, il était en train d'accumuler des éléments de preuve. Donc il en est mort. Voilà, il en est mort parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de preuves. Tout ça se fait, tout ça va continuer à se faire, mais au moins un responsable a été éliminé. Alors, je me rassure, d'une certaine façon, il y a forcément dans le reste de la hiérarchie de ce ministère, et il y a des gens qui vont lui succéder, qui sont au courant. Le régime soviétique, le russe, pardon, ne s'est pas effondré ce matin, mais il était sur la liste. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Quand vous êtes sur la liste, dans la plupart des cas, vous allez mourir. Le seul cas qu'on a récent, et on s'en est ouvert là, c'est que Bachar el-Assad a été sur la liste à l'évidence et qu'il a réussi à y échapper. Bon, ça c'est un point important sur lequel on reviendra, mais il est plutôt du côté des exceptions. ceux qui ont réussi à échapper, alors qu'ils étaient évidemment sur la liste. On lui avait mis lui depuis très longtemps, puisqu'en fait, je pense que son père y était déjà. Lui y était, il le savait, il s'était prémuni de ce genre de risque. Il a sans doute vu venir le moment où la sentence allait être exécutée. Pour ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Mais je vais commencer par toute une série de phénomènes montrant l'état de déliquescence du monde impérial. Le plus gros de la semaine dernière est effectivement la tentative de coup d'état du président sud-coréen. Là, alors, complètement incroyable. Le président sud-coréen, qui s'appelle M. Yoon Suk-yeol, dont le nom n'est pas très très populaire, il n'était pas président depuis très très longtemps, tente un coup d'État avec proclamation de l'état d'urgence, ou même plus que ça, l'état de guerre, etc. Parce qu'il a décidé, lui, alors il n'a pas décidé tout seul, bien sûr, que c'était le moment d'attaquer la Corée du Nord, de faire la guerre. Hein, et il sait qu'il a les moyens de le faire, il sait qu'il a 30 000 soldats des États-Unis sur son territoire, tout le matériel qu'il faut, ses troupes à lui qui sont entraînées, etc. Et ça veut dire que s'il a décidé ça tout seul, sans en avertir les autres membres du gouvernement, ou peut-être un petit noyau de fidèles, c'est qu'il avait, alors je vais être clair, il avait reçu la consigne que c'était le moment de faire ça. Alors pourquoi c'était le moment ? Pourquoi c'est le moment ? Parce que précisément, les Coréens du Nord, clairement, eux, puis c'est tout à fait clair, les relations entre la Fédération russe et la République populaire démocratique de Corée, donc la République, sont des rapports clairs. Ils sont entérinés par un traité d'assistance mutuelle entre les deux. Bon, donc, ils font ce qu'ils veulent comme des grands garçons. Ils décident de travailler ensemble, ils travaillent ensemble. Résultat du travail ensemble, on l'a dit et redit, mais ça se confirme et il n'y a aucune raison d'en douter, que dès l'instant où ils sont signataires l'un et l'autre d'un traité d'assistance militaire mutuelle, quand il y en a un qui a des problèmes militaires, il peut aller aider l'autre. Et si ça se fait dans le sens Corée du Nord-Russie, ça se fait dans ce sens-là, quitte à ce que, à un autre moment, ça soit dans l'autre sens, que les Russes viennent aider les Coréens du Nord s'ils ont des ennuis. Ça voulait dire, et c'est tout à fait normal dans l'application du traité, qu'il y avait depuis un certain temps, alors on en faisait toute une aventure, toute une histoire, il y avait des militaires nord-coréens sur le territoire de la Fédération de Russie, pas d'Ukraine, sur le territoire de la Fédération de Russie avec lequel leur pays avait un accord de défense stratégique. Bon, donc rien à dire, c'est la liberté entre deux États qui ont décidé de se donner la main et de céder. Bon. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a appris, et ça c'est ces derniers jours, qu'il y avait effectivement ces soldats sud-coréens n'arrivent pas simplement pour balayer la caserne. Ils arrivent parce que leur niveau de formation est bon, ils sont en capacité de maîtriser un certain nombre d'outils. La Corée du Nord fabrique des drones, par exemple. Bon, on sait qu'elle a fabriqué des bombes atomiques, ça on en a beaucoup parlé, mais beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que la Corée du Nord s'est dotée des moyens de résister à une invasion par les Coréens du Sud et par les États-Unis. Et au nombre de ces moyens, il y a effectivement des drones. Et apparemment, ça c'est dit, et il n'y a rien à dire contre ça, les drones nord-coréens ont été tirés sur les troupes de l'OTAN en Ukraine. Bon, c'est tout. Mais il y a rien de surprenant et il n'y a rien de clandestin, hein, puisque cette armée, elle est là dans le cadre d'un accord et elle utilise son matériel.
De toute façon, il y a des bases américaines dans le monde entier.
Évidemment, voilà. Donc, il n'y a pas. Voilà. Là, c'est même. Voilà, donc, ils sont là. Hein, et donc, il n'y a pas de quoi en faire un énorme scandale. Ce n'est pas un scandale, c'est le déroulement normal des choses. Mais ce n'est pas le déroulement, tu as bien raison de le faire, auquel on est habitué. D'habitude, ça ne se déroule pas comme ça. Ben là, ça s'est déroulé comme ça. Bon. Et donc, je reviens sur ce président sud-coréen qui, un beau matin, mais dans ce contexte, et ça y est, les Nord-Coréens travaillent main dans la main, avec les Russes, donc c'est le moment de faire quelque chose. Et donc, il reçoit un feu vert, j'allais dire, soit de l'ambassadeur des États-Unis à Séoul, soit directement du Pentagone ou de la Maison-Blanche, mais c'est le moment. Et là, d'écoutant, j'allais dire, que la voix de son maître, pas que son courage, parce que c'est pas ça, que la voix de son maître, il y va et il déclare tout bonnement, alors au détriment de la constitution de la République coréenne, au détriment du Parlement, du fait qu'il n'a pas de majorité parlementaire à Séoul, donc il ne pouvait même pas demander l'accord du Parlement, il dit, voilà, je déclare l'état d'urgence et je prends le pouvoir. Bon, alors, ça, entre le matin et le soir, alors, il a fait ça. Alors, quel quelle bouche l'avait piqué. Ben, on sait, c'est la bouche de Washington. Hein, c'est pas la bouche de Tsetse, c'est la bouche de Washington qui te pique et tu t'excites. Bon, et ben, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que le Parlement s'est réuni tout de suite, lui a dit, mais dis, qui t'a permis de faire ça ? Nous, on veut pas. Le Parlement sud-coréen, la majorité est détenue par des gens qui ne sont pas du parti de ce monsieur, et il leur dit, on n'en veut pas. D'où ça t'a pris ? Alors, ça s'est allé très vite, puisque maintenant, il est face à une procédure de destitution. Il est en prison. Bon, ouais. Ça lui apprendra. Alors, là-bas, ça a marché. Ça a marché parce qu'on avait un Parlement majoritaire dans l'opposition. C'est hélas pas le cas à Paris. Bon, mais ça pourrait arriver si on avait une majorité parlementaire. Mais il n'y en a pas. Bon. Donc voilà, c'est ce très très raccourci de cette semaine folle en Corée du Sud montre bien que quelque part, dans l'Empire, il y a du désordre. Il y a du désordre parce que les ordres arrivent, ne sont pas exécutés ou exécutés de travers, ils échouent, etc. Tant ils réussissent parce que Kirillov, lui, il n'avait pas été prévenu, donc il en est mort. Hein, donc ça, aux Russes d'en tenir les enseignements qu'il faut. Mais là, c'était clair. Washington avait dit, allez, ça y est. Alors Washington, dans le sens, est-ce qu'il pensait que ça allait réussir ? Je ne sais pas. On est toujours par rapport à cette question de la théorie du chaos. Plus il y a de désordre, mieux on se porte. Hein. C'est un peu ça l'idée de la théorie du chaos. Donc là, ils ont mis bravement le désordre en Corée du Sud. Et donc, il va falloir qu'ils élisent un nouveau président. Et ça va être un peu plus chaud que la fois d'avant, parce que là, maintenant, quand même, le parti démocrate qui est majoritaire au Parlement, il va y regarder à deux fois avant de savoir à qui il va confier, enfin, à qui va échoir le pouvoir présidentiel en Corée du Sud. Bon. Corée du Sud, qui par ailleurs est un pays totalement impliqué dans le dispositif impérial états-unien, puisque je le répète, donc il y a des troupes des États-Unis sur le sol.
Une
grande base, et des troupes des États-Unis qui sont déployées depuis 1953, depuis l'armistice. Oh. Voilà, et qu'elles sont là, elles sont entretenues, elles s'entraînent, et puis l'armée américaine vient très régulièrement, plusieurs fois dans l'année, mener des exercices conjoints avec l'armée sud-coréenne. Donc la présence militaire est constante et il s'agit, vous l'avez bien compris, d'aller faire le tour par avion, par bateau, par sous-marin de la Corée du Nord pour leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Bon, le jeu est très très limpide de ce point de vue-là. Alors voilà la première manifestation d'extrême désordre impérial, avec cette interrogation que je garde, est-ce que cet extrême désordre est un désordre qui leur échappe, c'est-à-dire le système est totalement déglingué et fonctionne dans tous les sens, et on ne sait même plus si le genre de consigne qu'avait reçu le président sud-coréen venait de Biden lui-même, venait de son secrétaire d'État Blinken, venait d'un militaire quelque part, ou simplement de l'ambassadeur des États-Unis à Séoul, ça on ne sait pas, ça fait partie du désordre américain, mais de toute façon c'était bien par là que ça venait, il n'aurait pas accepté d'ordre venant de quelqu'un d'autre ou d'une autre provenance que celle du maître états-unien auquel il est voué. Premier désordre, c'est pas rien, hein, parce que c'est assez rare qu'un chef d'État se lance dans une aventure de ce type-là et que ça se finit, c'est une espèce de vaudeville, ça se finit comme une opérette stupide. Pour un pays qui est quand même important au niveau industriel, au niveau stratégique, au niveau diplomatique, c'est incroyable. On croirait une mauvaise comédie de boulevard. Bon, c'est ça. La Corée du Sud dans l'Empire finissant ou chaotique. Premier signe de désordre interne profond du système. Le deuxième signe de désordre profond, là aussi c'est pas mal non plus, c'est en Géorgie. Alors en Géorgie, je vous rappelle, donc le parti Géorgie, la patrie géorgienne arrive en tête des élections législatives, il donc prend la majorité parlementaire, et le nouveau Premier ministre, puisque dans la constitution géorgienne, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir, le président de la République n'a qu'un pouvoir très très secondaire, donc le Premier ministre confirme qu'effectivement, il prend ses distances par rapport à l'Union européenne, il suspend même les négociations en disant « Attendez, vous me voulez du mal ?» Alors, il voit bien qu'on lui veut du mal, puisqu'il y a des manifestations qui sont organisées avec financement de l'Union européenne, de son Ross, enfin toute la clique qu'on connaît, et qui sont destinés à le faire tomber. Non, bon, ils sont mauvais joueurs, ils ont perdu les élections législatives, alors ils disent, elles sont truquées, elles sont faussées, le problème c'est que la Cour constitutionnelle les valide, et puis ils savent très bien qu'elles ne sont pas truquées, mais ils ont perdu, et ils détestent perdre, et donc la règle c'est, on perd une élection, mais on dit que c'était une mauvaise élection truquée, et puis c'est tout. Ça, c'est pas la première fois qu'ils le font, maintenant on est bien habitués, une élection qui donne le résultat que les États-Unis attendent, c'est bon, c'est validé, même si on peut avoir des doutes, une élection qui ne donne pas le résultat attendu à Washington, on lui invente des tas de maladies. Bon, voilà. Alors là, on était dans le classique, et il se trouve qu'ensuite, après cette première opération donc, de prise de distance, donc, toute une série de manifestations sont organisées, et puis finissent par se calmer, et puis on en arrive à une étape qui est prévue dans la Constitution géorgienne, qui est l'élection du président de la République. Avec un pouvoir, je dis, beaucoup plus faible que le Premier ministre, mais cette élection n'est pas une élection au suffrage universel direct, elle est comme ça, la Constitution géorgienne, c'est le Parlement qui vote en son sein le nouveau président. Bon, c'est comme ça, bon, ça a fonctionné déjà d'autres fois. Ça a fonctionné y compris pour la présidente sortante. Bon, ça, on ne le dit pas trop. Bon. Voyant la tournure des événements, les mauvais joueurs, les perdants, ceux qui ont déjà perdu le pouvoir législatif, le plus important, disent, bon, on n'y va pas, on ne participe pas au vote, le jour où il y a le vote est calé pour élire le nouveau président de la République, on ne participe pas au vote, et il va rester donc un hémicycle qu'on vous a montré abondamment à la télévision, si ça vous a intéressé, relativement vide, puisqu'une partie de la représentation n'était pas là. Bon. Dans ces cas-là, et le règlement le prévoit, ben c'est ceux qui sont là qui votent. Les autres n'ont pas voulu venir. Alors les autres n'ont pas voulu venir pour dire, comme ça, si on est battu, on dira qu'on n'y était pas. Hein, et si jamais on arrivait à ne pas être battu, hein, on pourrait dire aussi qu'on n'est pas content. Voilà. Alors, les comédies de ce genre, on en a tellement vu. Alors chaque fois, le premier acte n'est pas le même, le deuxième acte n'est pas le même. Il y a un Deus Ex Machina, bon... Peu importe, il y a des spécialistes de ce scénario politique truqué qui doivent être grassement payés, j'imagine, chez Soros, je ne sais pas quoi, qui fabriquent ce genre de spectacle. Bon, là, il se trouve donc qu'il sort de l'urne de l'Assemblée non majoritaire un monsieur que pas grand monde connaissait, qui s'appelle monsieur Mikhail Kavelashvili, donc c'est un vrai nom géorgien, il n'y a pas de souci là-dessus, qui a une carrière un peu étonnante, puisque tout ce qu'on a trouvé à dire de lui, bon, j'ai un peu cherché pour voir ce qu'on disait de lui, à la fois dans la presse grand public, États-Unis, Europe, etc., ou ailleurs, on ne sait pas grand-chose de lui, c'est-à-dire qu'entre le moment où il a été footballeur international dans un des deux clubs de Manchester, pas le plus gros, l'autre, Manchester City, bon, il a été donc international et il a joué, je pense, dans l'équipe géorgienne, dans les compétitions où elle pouvait intervenir. Il a 53 ans et sur sa carrière, entre le moment où il a fini de jouer au ballon, je pense qu'il n'a pas fini de jouer à 40 ans, ça ne se fait pas pour un international, et maintenant 53 ans, sa biographie est vide. Qu'est-ce qu'il... Alors, il a dû faire quelque chose. Hein. On ne sait pas. Alors, on dit qu'il n'a pas de diplôme. On sous-entend qu'il n'a rien fait. On présente un portrait en Occident, je veux dire. Un portrait extrêmement étrange, bizarre, sorti d'on ne sait où. Un footballeur sans diplôme. Alors, je riais en pensant des sans-diplômes parce que nous, quand on a des diplômés, genre monsieur François Bayrou, agrégé de lettres à 20 ans, chapeau. Monsieur Emmanuel Macron, inspecteur des finances, chapeau et tout. Quand on a des diplômés de très très haut niveau aux affaires, c'est pas forcément une réussite. Hein. Donc après tout, que monsieur Kavelashvili n'ait pas de diplôme, ça ne veut pas dire forcément que c'est un imbécile et qu'il ne saurait rien faire. Et là, on ne sait rien, puisque je lui dis, moi, j'ai regardé pour toute la presse française, anglaise, états-unienne et tout, pour avoir un rudiment de biographie entre, disons, allez, 28 ans, un international de football, et 53, rien. Il n'a rien fait. Alors, bon, il a sûrement fait quelque chose, hein, mais ça, on ne veut pas le dire, et puis on veut surtout minimiser le personnage, puisque, alors tenez-vous bien, et là on en arrive, alors c'est vraiment l'opérette poussée à un degré pas possible, c'est-à-dire que la présidente actuelle, dont le mandat s'achève le jour où le nouveau président est élu, ne veut pas s'en aller. Puisqu'elle dit, ah oui, mais mes députés n'étaient pas à l'Assemblée. Mais oui, tu les as pas envoyés. Ils ne pouvaient pas y être. Tu aurais dit de ne pas y aller. Après, ils n'y étaient pas, le vote vaut rien. Comédie, mais d'une grossièreté. C'est à la limite, même à qui il s'adresse ? Alors, je sais pas, les gens qui fabriquent ce genre de récits, ce genre d'histoire, est-ce qu'ils s'adressent à un public de débiles profonds, ayant arrêté leurs études à 10 ans, ne sachant ni lire ni écrire ? Je me demande dans quel univers mental tout ce petit monde fonctionne.
Bon. Actuellement, on est au niveau meurtre, au niveau viol.
On tue, on viole, puis voilà, c'est tout. C'est voilà toute l'actualité.
Dans le monde international, actuellement, il n'y a que ça. Voilà. Il n'y a plus de sagesse.
Voilà, on en est là. Donc, notre présidente, je dis notre présidente de la Géorgie, parce qu'elle était quand même française il n'y a pas si longtemps, la belle Salomé Zourabichvili, 72 ans quand même, hein, dit « Mais moi, je ne pars pas ». Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas très grave pour le fonctionnement de la Géorgie, puisque le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Mais on a là un nouvel abcès qui est créé pour dire « Regardez, la présidente ne veut pas partir ». Et le président élu, on le méprise, il n'a pas été vraiment élu, c'est pas sérieux. Donc on entretient un nouvel abcès pour la suite des événements. Mais la suite des événements, c'est qu'on voudrait bien que la Géorgie tombe du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'OTAN et de Bruxelles. Et tant que ça ne sera pas ça, eh ben, il y aura des problèmes en Géorgie. Et j'espère qu'on ne fera pas trop s'entretuer les Géorgiens, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, les manifestations ont été du domaine du raisonnable. Mais on sait, l'expérience de l'Ukraine l'a montré, que quand les manifestations du domaine du raisonnable, que ça ne dépasse pas le cocktail Molotov, dans le pire des cas, c'est suffisant, dès l'instant où c'est tir à vue dans la foule par des snipers qui sont cachés dans les immeubles, là, on passe à une autre étape de la révolution. On connaît, on l'a vu faire à Kiev, on sait très bien comment ça marche, et là, le feu est mis aux poudres. Et il en sort ce qu'il peut en pouvoir. Mais ça, il faut savoir aussi que pour l'OTAN, pour Bruxelles et surtout pour Washington, la Géorgie est un pion central, puisque tout ce qu'on a dit, alors là aussi, sur les portraits de M. Kavelashvili, alors il est d'extrême droite, il est pro-russe, il est pas très intelligent, enfin il a un portrait, il est ravagé par la propagande occidentale, bon, mais c'est tout, c'est pas celui qu'on attendait, point à la ligne, donc on pourra toujours inventer des tas de choses. Voilà pour monsieur Kavelashvili. Et par contre, alors monsieur le Premier ministre, lui, tient la route. Il dit « Je ne suis pas pro-russe, simplement je veux pouvoir décider ce que j'ai décidé et ce que mon parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, a décidé de faire ». Je n'ai pas mentionné, parce que c'est la dernière histoire à dormir debout, c'est que M. Kavelashvili serait manipulé par un milliardaire géorgien vivant à Moscou. Alors là, tout y est.
Tout le monde.
Tout y est. Donc c'est le monsieur qui, peut-être, lui aurait fait des chèques depuis l'âge de 28 ans jusqu'à l'âge de 53 ans, disant « Toi, tu seras un jour président de la République géorgienne ». Bon, c'est pas très sérieux, mais voilà de quoi est faite l'information grand public qui nous est vendue. Dernière chose de ce même type, disons, sur la Roumanie. Alors, la Roumanie, ça n'a pas encore beaucoup bouleversé, mais enfin, il y a eu cette donc double mouvement, c'est-à-dire un candidat élu au premier tour, enfin, premier au premier tour, suivi d'une deuxième, qui est élue au premier tour, mais qui n'est pas du tout du parti au pouvoir, bien que considérée comme libérale et pro-européenne. Donc ça a lieu un dimanche. Le lendemain ou le surlendemain, le Conseil constitutionnel ou la Commission électorale proclame les résultats. Et effectivement, lui, M. Georgescu est premier, Mme Lascani est deuxième. Bon, affaire classée. Jusqu'au moment où cette même Cour constitutionnelle, 3 jours après, dit qu'elle s'est trompée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Cour constitutionnelle qui, 3 jours après, se trompe, hein ? Alors c'était valide le mardi, le vendredi, ça ne l'était plus. Et donc elle dit tout simplement « l'élection est annulée ». S'inédit, on verra. Hein, ça veut dire, alors je traduis, tant que M. Georgescu et Mme Lascani ne seront pas, je ne sais pas, assassinés, expulsés de la Roumanie, on ne fera pas d'élection pour la présidence, c'est tout, point à la ligne. Et le parti au pouvoir, qui est un parti pro-européen, va gérer les affaires courantes. Alors on n'en est plus, nous, à s'étonner, en France, dans l'Hexagone, à s'étonner d'un pays sans gouvernement, où des gens disent « je suis ministre, mais je suis démissionnaire ». fonctionnaire, je serai peut-être encore ministre la semaine prochaine, vous verrez bien et tout. Après tout, on n'est jamais que dans ce capharnaüm généralisé. Hein, la Roumanie, c'est pareil. À cette différence près que chez nous, il n'y a encore que 9 millions de miséreux, c'est des chiffres officiels, je ne l'invente pas, en Roumanie, c'est la moitié de la population. Ouais, c'est-à-dire 50% sur 25 millions à peu près. Ouais. Voilà, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Non pas que je dise qu'on est bien en France. Hein. Je dis qu'il y a 9 millions de gens reconnus comme pauvres aujourd'hui, en dessous du seuil de pauvreté, dans la République française. Cocorico, au passage. Voilà pour la Roumanie. Et alors, attendez, je vous en ai gardé une autre pour la fin. Si, Roselyne proteste. Là, non, non. Alors, la Somalie. La Somalie, vous savez que c'est un endroit épouvantable. C'est, on n'arrête pas de savoir qui est le patron, qui travaille avec qui travaille... Bon. Alors, jusqu'à présent, on en était à observer les rapports difficiles entre le Somaliland, l'ex-Somalie italienne au nord, qui avait de fait déclaré son indépendance et qui vit d'ailleurs de façon totalement indépendante. Et puis, on ne parlait pas des autres. Et là, c'est maintenant le sud, la province de Juba, qui est en train de déclarer qu'elle est fâchée avec le gouvernement central. Elle, c'est donc une province qui est frontalière du Kenya. Hein. Et donc, à nouveau, la Somalie est tiraillée dans tous les sens, avec une intervention de la Turquie qui veut aider le gouvernement en place, le Sud qui ne veut plus obéir, le Nord qui obéit déjà plus. Pauvre Somalie, dont on voit bien que depuis qu'elle est indépendante, depuis que le dictateur Siad Barre est parti, la Somalie va dans tous les sens, et elle n'arrive pas à être gouvernée, et c'est, bon, elle n'en prend pas le chemin. Hein. Bon. Donc ça, c'est aussi une autre zone de désordre. Et c'était à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus.
Excuse-moi Bernard.
Je t'en prie.
Que vient faire la Turquie en Somalie ?
Ah ben, alors Erdogan met son nez partout, oui. Où on ne le met pas à la porte, en gros, c'est aussi simple que ça. Alors, il s'est dit, il y a une ouverture, voilà, Erdogan, il dit, il y a une ouverture en Afrique, en ce sens qu'il y a des pays qui disent, on refuse l'influence française. Bon, et nous, on peut s'en féliciter, ils essayent de prendre leur autonomie. Et aussitôt que ça est acquis, qu'il y a des pays qui essayent de s'écarter de l'influence française, il y a des petits malins qui se jettent sur la proie. Oui. C'est tout à fait
comme
clair.
Comme en Libye, par exemple, voilà. La Turquie.
Alors, il y a des gens qui ont compris, les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Niger, et au Burkina, ça, ils ont compris. Et d'autres ne comprennent pas tout de suite. Et donc, la Turquie arrive parmi d'autres, mais elle arrive assez vite. Les Japonais le font aussi. Les Indiens commencent à le faire de plus en plus. Sous-entendu, c'est autant que les Chinois ne prendront pas. Ça, c'est le grand classique, parce que les Chinois sont là depuis très longtemps. Ils ne se mêlent pas de politique. Ils essayent de faire lancer l'équipement, l'économie et l'équipement là, en infrastructure et en usine des pays, ils ne se mêlent pas du gouvernement. Mais Erdogan, il vient dire, là, je vais placer mes pions. Et donc, il se plaçait comme une espèce d'arbitre de la crise somalienne. Alors, je lui souhaite bien du plaisir, parce que la crise somalienne, celui qui la résoudra, je ne sais pas s'il est encore né. Hein, mais on n'en est pas à la veille, en tout cas. Bon. Mais M. Erdogan, voilà, fait son marché.
Ouais, mais, il se croit le sultan de...
Mais exactement. Ouais, oui, ouais. Il se vit en tant que sultan, l'Empire ottoman.
L'Empire ottoman,
voilà. C'est pour ça qu'il aimerait bien... Alors, on va venir à la Syrie. Il aimerait bien avoir un morceau de la Syrie. Mais qui mène les affaires en Syrie ? C'est là que ça devient très, très intéressant.
Très compliqué, là.
Voilà, ça devient très, très intéressant. Alors, je ne sais pas, on est déjà à la moitié de l'émission... On va faire la petite coupure musicale que j'ai prévue, parce que vous allez voir qu'elle est totalement d'actualité, mais je vous laisse la surprise. Merci Roselyne.
Sans un qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La Troie sans un qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La Troie sans un qui font la guerre. Au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les pendra. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les pendra. Ça ira, les aristocrates à la lanterne.
Voilà, alors vous avez peut-être reconnu, bien, pour ceux qui ont l'âge, c'était Édith Piaf, ouais, qui chantait la Carmagnole dans un film qui s'appelait « Sire Versailles m'était compté »,
ouais,
un des grands films réalisés par Sacha Guitry dans les années 50 et quelque part. Bien. Ça m'a paru être bien, bien d'actualité.
Plaisir, ouais.
Et donc, il est bon que nous gardions ça dans l'oreille, ça pourrait servir. Alors, reprenons le fil de nos réflexions. Je vais partir d'un événement marseillais dont on a parlé il y a une quinzaine de jours ou trois semaines. On a vu passer, d'une façon d'ailleurs relativement discrète, un porte-avions des États-Unis, le porte-avions Harry Truman, avec sa flotte d'accompagnement, qui est rentré dans le port de Marseille, le port commercial, puisque c'est le seul endroit où il peut rentrer, vu sa taille, et qu'on ne l'accepte pas à Toulon, parce qu'on ne veut pas qu'il vienne mettre le nez au milieu de la flotte française. Bon, ce qui est une précaution peut-être élémentaire.
Ouais.
Bon, admettons. Et puis il est reparti, sans qu'on en sache plus, puisque c'était une mission apparemment très discrète. La presse en a parlé assez peu, et plutôt après son départ qu'au moment de son arrivée. Alors il faut savoir que ce porte-avions-là, ou les autres qui viennent, mais c'est souvent lui qui vient à Marseille, fait partie donc de la 6e flotte, et en général, dans les escales précédentes, il y avait grand éclat, hein, grosse manifestation, faveur, télévision, visite du porte-avions par la télévision, etc., etc. Là, ça a été très très tranquille, parce que le porte-avions était en mission spéciale. Il était en mission spéciale parce que où allait-il ? Eh bien, devinez, il allait là où il faut qu'il aille, c'est-à-dire il allait le long de la côte syrienne. Or, il y est, et depuis, alors, j'explique un peu ce qu'il y a derrière ça. La planète, vous le savez, est découpée en une série de commandements de l'armée américaine. Quand il est à Marseille, le porte-avions Truman, il est dans l'USECOM, donc les États-Unis et l'Union de l'Europe de l'Ouest. Bon, ceci allant donc en gros de l'Espagne, y compris avec le Royaume-Uni, jusqu'à la Turquie. Et à la frontière turque, on rentre dans un autre commandement des États-Unis qui s'appelle le CENTCOM, le commandement du centre. Ce CENTCOM, il est très très intéressant dans son découpage. Il y a bien sûr l'Égypte, parce que l'Égypte, elle est des deux côtés du canal. Et puis, il y a tout le monde arabo-musulman. C'est-à-dire que ça va du Pakistan à l'extrême est jusqu'au Kazakhstan à l'extrême nord, avec l'Ouzbékistan, le Turkménistan, etc. Ça comprend l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats, enfin tout ce monde-là. Ça, c'est le commandement de l'armée États-Unis pour c'est en fait le commandement pour le monde musulman, à l'exclusion de l'Indonésie que je mets de côté. Mais vous voyez qu'il y a, et ça s'arrête à la frontière indienne, puisqu'à partir de l'Inde, à l'Est, c'est un autre commandement qui est le commandement Asie. Bon. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le 14, donc il y a trois jours, le porte-avions Truman est rentré sous la direction de l'US CENTCOM, donc au large, il est aujourd'hui au large des côtes de la Syrie ou d'Israël, c'est la même chose, avec ses avions, ses bombes, tout ce qu'il faut pour intervenir, des commandos embarqués, plusieurs centaines de commandos embarqués. Donc les États-Unis se préparaient en envoyant ce porte-avions, il y a maintenant deux mois qu'il est parti de Norfolk, sa base, il se préparait à la guerre qui est en cours en Syrie aujourd'hui. Le dispositif est parfaitement clair. Et quand il est passé à Marseille, on est resté très évasif. C'est pour ça qu'on a été très discret. Il ne fallait pas dire pourquoi il allait là. Parce que s'il ne fallait pas le dire, c'était qu'on savait qu'il n'arriverait pas, retenez les dates, qu'il n'arriverait pas avant le 14 au large des côtes syriennes et israéliennes, et qu'avant, il ne fallait surtout pas qu'on suscite l'émotion ou la curiosité des populations, ni même du gouvernement syrien, ni même du Hezbollah, ni même de personne. Mais maintenant, les choses sont parfaitement claires. La guerre des États-Unis en Syrie était organisée et prête. Bon. Tout ça veut dire... Et ça, on ne vous le dit pas. J'écoutais encore tout à l'heure un expert, alors je mets ça entre guillemets, bon, je m'arrête d'ironiser sur les experts, qui expliquait qu'il y avait effectivement donc, les islamistes, qu'il y avait un peu l'armée israélienne, qu'il y avait des Kurdes, des Druzes, etc., et qui ne parlait pas de l'armée des États-Unis sur le sol de la Syrie.
C'est vrai.
En fait, c'est ça le fond du problème, c'est que sur le sol même de la Syrie, depuis 2014, donc depuis 10 ans, il y a en permanence des soldats de l'armée américaine. À deux endroits, enfin, à un endroit au sud, ouais. La base de Al-Tanf, et puis dans toute une série d'endroits au nord-est, là, disons sur la rive gauche de l'Euphrate, pour faire simple. Bon. Ouais. Et ils sont là, ils sont bien installés, ils ont des camps, et ils se livrent à une activité qui consiste à surveiller ce qui se passe, éventuellement... à bombarder un peu l'Al-Qaïda s'il le trouve, ça c'est le prétexte, mais en fait surtout à éviter que la Syrie récupère ses terres à blé et récupère son pétrole. C'est ça leur mission. Et pour les aider dans l'exécution de cette mission, il y a une société des États-Unis qui est là pour pomper le pétrole syrien.
Bon.
Voilà. Et ce pétrole, alors comme il n'y a pas de pipeline qui a été construit depuis qu'ils sont là, bon, on se débrouille, c'est-à-dire que c'est des convois de camions qui suivent la frontière turque par le sud et qui arrivent jusqu'en Turquie, où ce pétrole volé donc à l'État syrien, le pétrole Conoco, est vendu au marché noir. Et il est vendu, en particulier, mais parmi d'autres trafiquants, par un des fils de M. Erdogan. Voilà, pourquoi se gêner, hein? Pourquoi se gêner, hein? Voilà ce que c'est. Et donc, voilà ce que protège l'armée des États-Unis. Elle protège le business de Erdogan, le business des compagnies pétrolières des États-Unis. Et puis, elle est là tout le temps. Elle sait tout ce qui se passe.
Et c'est pour surtout subventionner le Qassad, qui est...
Voilà.
Une partie des Kurdistan, quoi.
Tout à fait. Ouais. Et puis surveiller effectivement les Kurdes qui sont là et qui sont un peu une épine dans le pied de Erdogan et de la Turquie en général. Donc l'armée des États-Unis, elle est présente. On considère que les chiffres annoncés officiellement de 900 personnes sont totalement dépassés par la réalité. On est au moins au niveau de 5000 personnes. Et il faut savoir que depuis la semaine dernière, les États-Unis bombardent tout ce qu'ils peuvent bombarder comme installation syrienne existant encore de ce côté-là de la Syrie. Alors, ils ne sont pas les seuls, puisque rassurez-vous, si j'ose dire, entre guillemets, rassurez-vous, l'armée israélienne a fait largement sa part de la destruction. Puisqu'il faut savoir que donc Bachar el-Assad est parti, enfin, n'a plus été au pouvoir le dimanche, et donc dès le lundi, l'armée israélienne a lancé entre 300 et 400 raids et a détruit la totalité des installations
90%
militaires.
90% d'après des experts. Hein.
Voilà. Il reste rien de la Syrie, et là où il en restait, les États-Unis font le reste du travail. Mais on a parlé volontiers d'Israël, ça s'est vu, c'était quand même un peu gros. On n'a pas beaucoup parlé de l'armée des États-Unis, mais elle a fait ça. Et l'arrivée du porte-avions depuis deux jours au large des côtes fait que ça va continuer. Tout est organisé pour que ça continue avec d'énormes moyens militaires, parce que c'est 60 avions de chasse, un porte-avions comme le Truman. 60 avions de chasse avec des missiles et tout et tout. Donc c'est une force de frappe considérable. C'est-à-dire que rien ne peut se passer militairement si les États-Unis s'y oppose aujourd'hui sur le sol syrien. La marge de manœuvre d'Israël par rapport à ça, elle n'est peut-être pas si ample qu'on peut l'imaginer, et peut-être qu'il y a un moment donné où les États-Unis disent « Non, c'est nous les patrons, tu as bien compris ça, c'est nous les patrons, tu travailles avec notre argent, tu travailles avec notre matériel militaire. Bon, si on te dit que tu arrêtes sur la Syrie, ou tu n'en prends pas trop, parce que même si c'est trop gourmand, on te dira de te calmer, parce que c'est nous qui gérons. » Et pourquoi c'est nous qui gérons? Parce que c'est quand même un vrai problème, parce qu'il y a d'autres puissances qui ne sont pas très très loin, alors qui pour l'instant sont dans une position un peu d'attente, mais qui ne vont pas laisser le vide syrien non rempli. Alors, il y a un vide sans ville. Alors, officiellement, M. son vrai nom de Al-Jolani, je ne sais plus ce que c'est.
Jolani, Mohamed Jolani.
Voilà, bon, peu importe. Alors, on le présente comme le gouvernement. En fait, on ne sait pas...
Finalement, ils vont se retourner contre lui.
Voilà, on ne sait pas ce qu'il gouverne. En tout cas, il ne gouverne pas la partie sud-est, puis c'est Israël. Il ne gouverne pas le nord-ouest, puis c'est la Turquie. Il ne gouverne pas plus à l'est, puis c'est les États-Unis en pratique qui gouvernent. Et il ne gouverne pas la bande côtière, même s'il a envie, parce que là, en fait, il faut le dire aussi, il y a des milices alaouites qui ont commencé à se battre et qui ne laisseront pas intervenir. Alors, donc, tout ça fait que...
Chiite alaouite.
Donc, on se contente de dire, ah ben, il y a ce monsieur au pouvoir, on oublie qu'il y a une amende de 10 millions de dollars sur sa tête, lancée par le FBI, qui n'a toujours pas été enlevée, d'ailleurs, rien. Alors, c'est amusant.
Jusqu'à présent, les terrorismes, soi-disant, oui. C'est Jechicham, Nostra, Al-Qaïda.
Voilà. Alors, il y a au Congrès à Washington, il y a quand même des élus qui disent, il faudrait quand même l'enlever de la liste des terroristes. Ça ne fait pas propre. Ouais. Mais en fait, ils ne vont même pas le faire parce que je pense qu'à un moment, on va le mettre sur la touche et il aura servi juste à faire ce qu'il fait. Ben non, il a raté, à mon sens. Moi, je persiste dans mon analyse. Sa mission, c'était de tuer Bachar el-Assad. Il a raté, c'est tout. Parce que Bachar el-Assad l'a sans doute vu venir et il a bien fait de se méfier.
Partir, ouais.
Donc voilà une première donnée sur cette situation syrienne. Il y a d'autres aspects qu'il faut voir, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui se passe en Russie et en Iran par rapport à cette situation.
Ça, c'est important, important. Voilà.
Commençons par l'Iran. Alors l'Iran, on sait qu'il a manifesté des possibilités d'intervention militaire sur Israël très très fortes quand il a fait les fameux raids dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui ont fait beaucoup d'effets, y compris quand ils ont visé la base nucléaire de Dimona dans le désert du Negev. Mais on sait que les capacités militaires de l'Iran sont fortes en termes de drones, de missiles balistiques, etc. Donc il a une vraie capacité d'intervention militaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui veut du mal, clairement.
Et le traitement de l'uranium est arrivé à 60%.
Le traitement de l'uranium,
qui est la
marche, la dernière marche qui reste à franchir avant l'arme atomique, peut être franchie relativement rapidement.
On ne sait pas.
Bon, voilà. Donc là, une inquiétude. Et il est clair que l'idée, c'était de dire, une fois que le gouvernement syrien, que Bachar Assad est parti, il n'y a plus personne pour aider l'Iran. Donc on est dans le face-à-face Iran-États-Unis, en fait, Iran-Israël, mais Iran-États-Unis.
C'est sûr.
À ce niveau-là d'implication géopolitique, c'est pas Netanyahou qui décide, c'est Washington. S'il faut essayer de démolir l'Iran, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, puissance économique importante, puissance pétrolière, etc., alliés dans l'organisation de coopération de Shanghai avec la Chine et la Russie, on y regardera à deux fois. Et donc, ce n'est pas Netanyahou qui prendra ce genre de décision. Il le fera d'autant moins que, depuis la fin de la semaine dernière, Netanyahou est au tribunal.
Oui.
Pour corruption. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'il le cherchait, et puis il trouvait toujours un motif de dire « Oui, mais ce n'est pas le moment, vous voyez bien que je suis occupé à tuer des Palestiniens, je ne peux pas tout faire, tout là-là. Hein, vous me mettez devant un tribunal, et là, j'ai envie de tuer des Palestiniens tous les matins, et là, je suis au tribunal, je ne peux pas. Hein, ben, c'est ça, la tête de Netanyahou. Bon, d'autres le font à sa place, vous inquiétez pas, pour ça, le régime sioniste est bien organisé. Mais toujours est-il que sa position est en train de s'affaiblir. Et si elle s'affaiblit, c'est pas parce que la Cour pénale internationale a envoyé un mandat d'arrêt, c'est parce qu'il est devant un tribunal israélien en Israël et qu'il se présente. Et je pense, alors j'ai pas vu de photo, je pense qu'il se présente les menottes au poing. Alors ça fait pas très brillant pour un chef d'État si puissant, si victorieux, si maître de lui-même et du reste du monde, c'est pas très brillant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a décidé que c'était plus lui, que les États-Unis travaillent avec quelqu'un d'autre, hein, et que lui, on va le mettre un peu sur le côté. Hein. parce qu'il est gênant, puis il fait la mauvaise tête, ou parce que les affaires désormais sont trop sérieuses pour être laissées entre les mains de M. Netanyahou. Trop sérieuses. C'est la question de l'Iran, c'est la question de la Russie, c'est la question de la Chine. Là, on est sur un problème qui dépasse M. Netanyahou. M. Netanyahou est trop petit pour faire ça. Quand il s'agit de massacrer, d'assassiner des milliers d'enfants, ça, M. Netanyahou, on le laisse faire. Quand il s'agit de grandes affaires, on ne le laisse plus faire. Alors, je ne sais pas encore qui prendra sa place et comment, mais c'est parfaitement clair de ce point de vue-là. Donc ça, c'est côté Iran. Côté Iran, et on se met à regarder ce qui se passe en Iran. Alors, en Iran, la situation est quand même assez particulière. Vous savez, vous vous souvenez peut-être que le président, M. Raisi, est tombé dans un accident d'hélicoptère assez étrange en revenant d'une réunion en Azerbaïdjan.
Et alors qu'il y avait plusieurs hélicoptères ensemble.
Voilà, trois hélicoptères dans le brouillard au-dessus d'une zone montagneuse. Et comme par hasard, le seul qui tombe, c'est l'hélicoptère du président. Ouais. Bon. Comme par hasard aussi, drôle de hasard, son aide de camp, ou son bras droit, qui aurait dû être dans, le même hélicoptère que lui, exceptionnellement, n'y était pas. Bon. Ah, bon. Donc l'hélicoptère tombe, il s'écrase dans les montagnes, dans la neige, c'est effectivement très mauvais temps. Et après, quand les recherches sont menées, on retrouve effectivement les corps. Il y a encore un survivant qui respire encore un tout petit peu quand les secours arrivent, mais qui va expirer assez vite. Et donc on n'a pas beaucoup de témoignages, mais on essaye de reconstituer. Or, il semble de plus en plus net que l'accident de M. Raisi n'est pas un hasard. Ouais. N'est pas un hasard. Et donc il y avait un problème de lutte, de succession à la tête de l'Iran qui était en cours et que M. Raisi en a été la victime. Ouais. Alors il est remplacé par un M. Pezeqian, que vous avez peut-être vu déjà sur les écrans, qui est un monsieur qui était déjà dans l'appareil d'État, mais qui avait en plus participé assez profondément aux négociations avec l'équipe Obama de l'accord sur la réduction des sanctions, la suppression des sanctions, donc qui sait un peu comment ça fonctionne dans le camp d'en face et dans le camp états-unien, et qui est présenté, et là moi je prends ça avec beaucoup de pincettes, on le présente comme plus pro-occidental que Raisi. C'est possible, mais ça veut dire que le problème du pouvoir à Téhéran est posé et que les États-Unis, avant d'attaquer l'Iran, s'ils décident, alors parce qu'ils ont envie depuis longtemps de détruire l'Iran, ça on a compris, et ils le feront uniquement le jour où ils maîtriseront vraiment la situation, où ils seront sûrs de ne pas rater leur coup. Parce que rater leur coup, ça veut dire alors des quantités de drones, de missiles balistiques qui se lancent sur Israël, y compris sur leur porte-avions de Truman, et tout peut se passer dans ces cas-là. Hein, parce que l'Iran est quand même dangereux militairement.
Tout pays musulman qui avance sur le point de vue technologique,
voilà.
Et les Américains, n'en veulent pas.
Voilà.
C'est voilà. Clair.
Et ils sont tous dans le fameux commandement central. Ils sont tous là, ils ont été regroupés exprès pour ça, avec un général, un état-major qui s'occupe que d'eux, tout le temps, à longueur de temps, avec d'énormes moyens. Et y compris de temps en temps un porte-avions. Donc voilà ce qui se passe côté Iran. Maintenant, arrivons encore à un niveau supérieur. Allons à Moscou. Qu'est-ce qui se passe à Moscou ?
Là,
alors, problème, qu'est-ce qui se passe à Moscou ? Parce qu'effectivement, la version, quand est-ce qu'est parti Bachar el-Assad et pourquoi il est parti ? Alors, il est sorti, je crois que c'est avant-hier, une version donc signée Bachar el-Assad.
Ouais.
Donc on peut imaginer qu'il est vraiment l'auteur, donc on peut imaginer. Il est à Moscou, il est sans doute protégé, je lui souhaite. Il n'a pas accès à Internet et à TikTok et à WhatsApp, etc. à longueur de journée, sûrement pas. Donc le message qui est sorti a été validé ou au moins approuvé par Moscou.
Ouais,
c'est clair. Bon. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour ça que je mets des doutes. Hein,
c'est normal, je suis hébergé chez vous, je suis au courant de tout ce que vous faites.
Voilà, exactement. Ouais. Hein, donc dans ce message, il dit qu'en fait, il est parti, il s'est battu, jusqu'à dernière. L'armée syrienne s'est battue, ce qu'on n'a pas vu sur le terrain, c'est pas vrai, que l'armée russe s'est battue, ce qu'on n'a pas beaucoup vu sur le terrain, peut-être dans les tout premiers jours, puis après ça s'est arrêté. Mmh. Donc il met en circulation, sous son nom, cette version qui ne fait pas de peine aux Russes, puisque c'est celle qui les avantage le mieux, en disant qu'il s'est battu jusqu'au dernier moment comme un diable, et que, je crois que c'est le dimanche à 7h ou 5h du matin, il approche de la base aérienne de russe, là, on le met dans un avion, c'est et bien. Il s'en va. Ouais. Alors, il s'en va par où ? Ah, je pose une question, moi j'ai vu deux versions. Alors effectivement, le trajet direct entre la base russe des Mémines et la Russie, ça consiste à traverser l'espace aérien turc. Est-ce que c'est sûr l'espace aérien turc ? On peut en douter. Moi j'ai vu d'autres hypothèses disant non, il est parti beaucoup plus au sud, il est passé au-dessus de l'Égypte qu'il a laissé passer, il est passé au-dessus de l'Arabie saoudite qu'il a laissé passer, il est passé au-dessus de l'Irak qu'il a laissé passer, et il a rejoint par la Caspienne. Donc, avec peut-être une méfiance justifiée par rapport à ce que serait la Turquie, ce que ferait la Turquie dans un avion où il y aurait Bachar el-Assad. Parce que je pense que, vu l'amitié qu'il lui portait, je mets ça entre guillemets, il ne l'aurait sûrement pas raté.
Ah oui, bon. Il n'a pas accepté de se réunir avec lui.
Voilà.
Hein, parce que, il avait des conditions, bien sûr, voilà. Comme quoi il
tu fais bien de le rappeler, parce qu'effectivement, qu'est-ce que la Turquie peut reprocher à M. Bachar el-Assad ? Tout simplement que, quand M. Bachar el-Assad avait reçu une invitation de discuter avec M. Erdogan, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a peut-être 3-4 mois, pas plus, il avait répondu en disant « Tant que vous aurez des soldats turcs sur le sol de la République arabe syrienne, je ne vous rencontrerai pas. Ouais. » Rentrez chez vous, et à ce moment-là, on est à égalité, je suis souverain, vous êtes souverain, on peut parler, mais autrement, non. Et ça, je pense qu'on ne lui a pas pardonné, c'était même presque impudent de sa part. Bon,
est-ce que Erdogan s'est concerté avec Poutine pour ça ? On ne sait pas, non.
Voilà.
On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien. Donc, ouais. côté Moscou, il y a ce doute, c'est-à-dire, il est à Moscou, il n'a pas sa liberté de parole, c'est clair. Alors il y a deux hypothèses. Soit effectivement, il va finir ses jours comme Snowden à Moscou, parce que c'est là qu'il est tranquille. Soit effectivement, alors, c'est une autre hypothèse qui est très favorable à la position de Poutine à Moscou, consiste à dire, on attend que le chaos s'installe bien en Syrie. Après, à un moment donné, il y aura une négociation au sommet entre la Russie et les États-Unis. Et à ce moment-là, on réenvoiera Bachar el-Assad en Syrie et on réinstallera un gouvernement syrien.
Bernard, actuellement,
c'est une
en Syrie,
oui.
Les Américains sont installés.
Ah, complètement.
Complètement. Le dollar circule partout.
Partout, oui.
Et la monnaie turque aussi.
Turque aussi, ah oui, il n'y a plus de monnaie syrienne.
Un euro, il valait avant dans le 15 000 livres syriens. Maintenant, il vaut 7 000.
Oui, il y a une remontée de la monnaie,
Donc l'Amérique, elle va étendre ses tentacules
pour occuper
complètement la Syrie et la mettre...
Rappelons qu'en 1945, l'Amérique avait imprimé des billets à la place de la Banque de France pour dire qu'on n'était plus français, que c'était eux qui faisaient les billets. Donc ça fait partie de leur façon de faire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, incertitude sur la position russe. Soit effectivement, première analyse qu'on a eue au début, c'est ils ont arrêté, ils ont dit nous on a d'autres chats à fouetter, on a une priorité, c'est l'Ukraine, ça c'est compliqué, ils avancent militairement, mais c'est quand même un endroit difficile, et puis ils ont la totalité de l'OTAN sur le dos, maintenant c'est pas Zelensky,
Bernard,
c'est clown.
C'est que je comprends pas,
vas-y.
C'est qu'au départ, la base de Jablé, là où se trouve l'arme russe, elle s'est battue avec l'armée aérienne syrienne.
Oui.
Et ils ont bombardé tout le côté, comme ça s'appelle...
Mais oui.
Voilà.
Mais oui.
Alors, il y a eu, soi-disant, plus de 300 hommes djihadistes qui se sont tués. Et on a cru quand même qu'ils vont libérer complètement. Or, il s'est stoppé. On ne sait pas quelles sont les raisons.
Et on peut penser que le fait que la zone d'Idleb n'ait pas pu être abordée par l'armée syrienne, son salut, c'était de dire « je vais rentrer dans Idleb et supprimer et faire partir les djihadistes ».
Surtout, ce n'était pas tellement difficile.
Voilà, et la Russie leur a interdit de le faire, en disant « on en trouve un mot du djihadiste ». Alors, moi j'analyse, et d'autres le font, mais je pense que c'est juste, et ce n'est pas une critique méchante de la Russie, ils ont géré cette histoire d'Idleb comme ils ont géré les accords de Minsk. On temporise, on essaye de faire croire qu'il y a une négociation. On sait très bien qu'il n'y a pas de négociation, on croit qu'il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, on calme le jeu. à notre avantage. Hein, c'est un peu ça. Et puis après, quand les accords de Minsk, au bout de 10 ans, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout et qu'il n'y a plus rien à en attendre et que Merkel et Hollande ont dit qu'on s'est, non, on s'est payé plus... votre tête et tout, ouais, là, ils réagissent. Mais là, c'est un peu tard. Hein, c'est un peu tard. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé autour de l'Ib. Donc, la Russie a une position difficile à tenir dans cette circonstance. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point elle n'a pas souhaité que le gouvernement syrien disparaisse pour être le vrai interlocuteur in fine de la nouvelle présidence des États-Unis, que ce ne soit pas les Syriens eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, elle a traité la Syrie comme une colonie. Je rappelle, pour conforter mon propos, que la Russie avait préparé un projet de constitution pour la République arabe syrienne, que les Syriens ont refusé. Ça, c'est un traitement colonial. C'est ni plus ni moins que ça. Dernier aspect, les relations entre la Russie et la Chine. Et je vais terminer là-dessus. Parce que là, on est au cœur des BRICS. Hein, les BRICS, je le rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ben, ce qui se passe très très clairement, c'est que la Russie fait tout pour donner des faveurs et des avantages à l'Inde par rapport à la Chine. Pourquoi je dis ça ? Parce que le voyage de M. Medvedev, samedi dernier à Pékin, avant la chute donc du gouvernement syrien, M. Medvedev a rencontré le président chinois. Alors vous allez dire, oui, c'est normal. Mais à quel titre il y est allé ? Alors je vais vous dire, alors regardez bien, parce que les Chinois ne font pas des choses dans la simplicité, dans un va-vite. Monsieur Medvedev a été reçu par une délégation du Parti communiste chinois, dont Monsieur Xi Jinping est le secrétaire général, et il a été reçu en tant que vice-président d'un parti qui s'appelle Parti Uni. C'était une relation de parti à parti. C'était pas une relation entre le gouvernement russe et le gouvernement chinois. Les Chinois savent très très bien faire la différence. Alors, on a vu une très grande salle avec les deux délégations. Mais si vous regardez les communiqués qui ont été issus par la diplomatie chinoise après, on a renouvelé l'amitié stratégique de longue haleine, les rapports fraternels, la stratégie commune, etc. En fait, il y a un froid manifeste entre la Chine et la Russie en ce moment. C'est tout à fait clair. La Chine, on le sait, elle l'a dit, elle aurait souhaité qu'il n'y ait pas de guerre en Ukraine, ça c'est vrai. Bon, elle a compris les motifs, mais pour autant, elle se dit qu'un foyer comme ça de guerre, c'est autant d'économies, autant d'hommes perdus, autant de morts, autant de dévastations et tout, dont il faudrait que la planète se passe. Je rappelle que le principal théoricien de la guerre, pas de la guerre moderne, mais de la guerre, qui est un auteur chinois très ancien qui s'appelle Sun Tzu, passe son temps dans son livre à dire qu'il faut faire la guerre quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais d'abord, il faut l'éviter. Ça, c'est le fond de l'attitude chinoise. D'abord, éviter la guerre. Alors, on fait par l'espionnage, par les interventions diverses et tout. Si on peut l'éviter, c'est tant mieux. Quand il faut y aller, après, on se donne d'autres méthodes, on le fait. Mais pas la peine d'aller tout de suite, de se jeter sur l'adversaire sans être sûr qu'on va, en plus, sans être sûr qu'on va le battre. Ça, c'est très profond dans la culture chinoise. C'est tellement profond qu'il s'est tenu il y a 15 jours à Pékin un séminaire sur Sun Tzu avec des universitaires et des généraux du monde entier. Il y avait 400 personnes. Parce que il faut savoir que dans toutes les écoles de guerre, mais aux États-Unis, à Saint-Cyr, etc., on étudie Sun Tzu encore aujourd'hui, 400 ans avant Jésus-Christ. Oui, mais il a quand même posé correctement les problèmes sur cette base. Si on peut l'éviter, on l'évite. Quand il faut la faire intelligemment. Bon, c'est tout à fait clair. Et pour aller dans ce droit fil, je signalais que, alors ça c'est ce week-end, le président chinois est intervenu dans un séminaire qui faisait les éloges plutôt d'un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Guo Xi, qui a été un leader qui est né il y a 100 ans, qui était un des leaders du Parti communiste chinois et qui était un des meilleurs théoriciens justement de la guerre révolutionnaire contemporain. Et donc, quand le Parti communiste chinois décide d'organiser un séminaire où ils invitent le président à prendre la parole pour dire « Il faut que nous suivions la boussole et le guide de ces dirigeants du Parti communiste qui savent ce qu'ils font et qui ont amené la Chine là où elle est aujourd'hui », c'est-à-dire première ou deuxième puissance économique mondiale, ça veut dire que, clairement, du côté chinois, on réaffirme son positionnement stratégique communiste. Et par rapport à ça, La Russie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, la Russie, elle fait des mamours à l'Inde. Je simplifie, mais c'est ça. Donc, ce couple à trois, parce qu'il ne faut pas, rêver... Enfin, les BRICS, c'est une tentative intéressante qui est en cours de maturation, mais il ne faut pas rêver, on n'a pas à faire... Il ne s'agit pas d'une alliance militaire, il ne s'agit pas d'une alliance économique, il ne s'agit pas d'une monnaie commune, ça a encore été confirmé récemment, il s'agit d'essayer de travailler ensemble sans se faire trop de misère. Mais, en fait, dans les cinq BRICS initiaux, je rappelle... Chine, Inde et Russie, et il y avait après la Brésil et l'Afrique du Sud, il y en a trois qui pèsent plus lourd que les deux autres. Surtout que le Brésil risque de perdre son président, qui est sorti très très abîmé d'une hémorragie cérébrale et dans un état très très inquiétant. Bon. Et donc il n'est pas du tout sûr de réêtre élu, et si ce n'est pas lui qui conduit la liste du Parti des Travailleurs, aussi bien Bolsonaro ou les bolsonaristes reprennent le pouvoir. Bon. Donc le Brésil est fragile, l'Afrique du Sud elle est fragilisée parce que l'ANC a perdu la majorité, donc en fait les trois éléments forts des BRICS, c'est les trois. Et en fait dans ces trois, ce qui se passe sous nos yeux, je confirme bien, c'est un appui très net de l'Inde et de la Russie, réciproque, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne m'étends pas maintenant, et la Chine qui rappelle qu'elle est un pays communiste et qu'elle a une vision politique du monde, alors que les deux autres, l'Inde, c'est le président indien, le premier ministre indien, c'est un raciste hindouiste absolu, la Russie est entre les deux, mais clairement, on a affaire à des BRICS qui sont en train de chercher un nouveau souffle, parce que en plus dans les nouveaux on ajoute Erdogan, alors bonjour les dégâts, c'est pire que tout autre. Je rappelle que dans les BRICS nouveaux depuis l'année dernière, il y a l'Arabie Saoudite qui n'a finalement pas signé, il y a les Émirats Arabes Unis qui sont, mais à quoi ils sont,
qui sont pro-américains,
voilà,
pro-OTAN,
complètement, voilà. Hein, et puis on a sélectionné, alors dans les pays musulmans arabes, on a sélectionné que les monarchies. Pourquoi on ne mettrait pas la Syrie dans les BRICS, s'il y avait une Syrie? Ce serait autre chose, un pays laïque, musulman majoritairement, évolué, républicain, ou l'Irak et tout. Et donc, on n'a mis que les monarchies réactionnaires. Ouais. Bon, bizarre. Donc ça complique un peu notre vision des BRICS qui a été, alors je termine là-dessus, qui a été enjolivée à la suite du sommet de Kazan. Le sommet de Kazan, c'était une réussite médiatique. Hein. On a dit que ça y était, les BRICS s'étaient lancés et que le tapis rouge était là et que le monde entier leur appartenait. Ce n'est pas tout à fait vrai. Celui à qui le monde appartient encore aujourd'hui n'a pas envie de laisser la place, et donc on est face à une période qui va être longue. Mais il faut que chacun se situe bien dans ce dispositif-là. Voilà ce que je voulais dire pour forme de conclusion jusqu'à... Alors, pas la semaine prochaine, on ne se voit pas le 24, mais on se verra le 31 pour faire un bilan de 2024 tous ensemble. Merci de votre attention. À bientôt.